Il est 7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est ministre des Solidarités et de la Santé.
Bonjour à vous Olivier Véran.
Bonjour et bonne année.
Merci, bonne année à vous aussi, merci d'être avec nous en ce lundi de rentrée. Les vacances ont été rythmées par les chiffres records de contamination de ces derniers jours. 200 000 cas quotidiens, 230 000 même le 31 décembre record. Question simple d'abord, est-ce que ça va continuer à augmenter ?
Ça va continuer à augmenter dans les prochains jours, oui. La circulation du Omicron est très élevée, si vous regardez d'ailleurs. Elle est très élevée sur toute la planète, c'est intéressant, hein, du Burundi au Canada en passant par l'Australie, évidemment l'Europe occidentale. On n'a jamais enregistré autant de contaminations de par le monde, on le savait. C'est une confirmation que ce variant Omicron est plus dangereux.
Donc on va avoir 300 000, 400 000 cas, il faut se préparer dans les prochains jours à avoir ça comme annonce quotidienne.
On est déjà au-dessus de 200 000 cas diagnostiqués, c'est-à-dire peut-être un demi-million de contaminations quotidiennes en réalité, ce qui est déjà un niveau jamais atteint.
Est-ce que le pic sera atteint à la mi-janvier comme le prévoit le professeur Arnaud Fontanet ? Est-ce que vous avez les mêmes prévisions ?
C'est possible. Pour l'instant, je ne vois pas de ralentissement de la circulation du Omicron. Nous verrons.
Vous parlez du Omicron, mais le pic de Delta, puisque c'est l'autre menace, est-ce qu'il est passé ce pic de Delta ou est-ce que ça continue à augmenter ?
Non, le pic de Delta, alors en réalité, nous sommes sur un plateau élevé de circulation du Delta. Il y a encore plusieurs dizaines de milliers de contaminations. Si vous me permettez, en fait, on fait face à deux menaces assez distinctes et on en sait un peu plus depuis ces derniers jours. D'abord, le risque encouru avec Omicron, c'est un risque d'abord de saturation de nos hôpitaux, des lits d'hospitalisation conventionnels. Omicron est moins dangereux, ça se confirme. Il provoque donc moins de syndromes de détresse respiratoire aiguë. Et les besoins en lits de réanimation sont moins importants qu'avec les variants précédents. Par contre, il peut, pardonnez-moi pour l'expression, clouer au lit des personnes fragiles, avec une très forte fièvre, une très forte toux. Il a des besoins en oxygène de 3-4 jours, et donc on s'attend à avoir un afflux très important de malades dans les lits d'hospitalisation conventionnels. Le deuxième risque d'Omicron, c'est un dysfonctionnement de la société. Trop de contamination, trop de cas contacts. C'est pourquoi nous avons fait évoluer ces règles de cas contacts et cas positifs.
On va y parler de l'assouplissement des règles, mais donc voilà. pour dire clairement les choses aux gens ce matin, Omicron, ça sature les lits d'hôpitaux conventionnels. Delta sature les réanimations.
Exactement.
C'est bien ça?
Exactement. Delta, lui, provoque.
Donc, dans les deux cas, on risque d'aller à l'hôpital.
Donc, ce sont deux menaces qui se conjuguent et qui se cumulent. Alors, elles appellent une même réponse, ces deux menaces. La vaccination. La vaccination avec rappel. C'est pourquoi j'ai fixé l'objectif 25 millions d'injections dans les 5 prochaines semaines pour nous protéger. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, des mesures de freinage, surtout pour Delta. C'est le télétravail qui devient obligatoire. C'est la limitation des grands rassemblements. Et c'est ce fameux pass vaccinal que je défendrai à l'Assemblée nationale aujourd'hui et cette nuit.
Aujourd'hui, il y a des malades atteints d'Omicron qui sont en réanimation dans les hôpitaux français ou
très peu. Pour l'instant, très peu.
Quelle est la situation des hôpitaux à l'heure où nous parlons ? Est-ce qu'il y a déjà des hôpitaux, on parle de l'hôpital de Marseille notamment, qui sont en saturation ? Est-ce
oui.
que vous avez des chiffres à nous donner ?
Il y a des réanimations qui sont en très forte tension, en saturation, notamment dans la région sud, et notamment dans les Bouches-du-Rhône. J'ai vu la tribune des médecins marseillais hier, 90% de patients non vaccinés dans leur lit, 100% d'occupation des lits de réanimation.
Et près de deux tiers des opérations déprogrammées dans l'hôpital dans les hôpitaux de Marseille.
C'est essentiellement du variant, ou quasi exclusivement du variant Delta. Et vous y trouvez encore une fois, comme pour toute la France, deux profils de patients, les non-vaccinés et les patients immunodéprimés fragiles, qui, bien que vaccinés, peuvent faire des formes graves.
Pourquoi, quand on fait un test antigénique et qu'on est positif, Olivier Véran, on ne nous dit pas si on est atteint de l'Omicron ou du Delta ?
Parce que le test ne permet pas de savoir quel est le génome du virus qui vous a infecté. Il permet de savoir que vous avez manifestement été infecté. Ensuite, il y a le criblage. C'est-à-dire qu'on passe au tamis, le virus, on regarde des mutations qui sautent aux yeux et qui nous font dire, tiens, ça c'est du Omicron ou ça c'est du Delta. Et enfin, vous avez le séquençage, où là c'est une cartographie très fine, ça prend plusieurs jours pour chaque patient, qui permet de savoir précisément la nature des mutations du virus qui vous a atteint, notamment pour identifier d'éventuels nouveaux variants.
Omicron, qui est donc un variant, on le sait maintenant, vous l'avez répété, moins dangereux, moins mortel que le Delta, même s'il est plus contagieux, vous le dites. Ce variant Omicron nous permettra-t-il d'atteindre l'immunité collective qu'on espère depuis 2 ans, Olivier Véran ?
Ça, plus la vaccination, c'est une possibilité. C'est pourquoi j'ai dit que c'était peut-être, encore une fois, tout est dans le peut-être, la dernière des vagues. C'est-à-dire que, vu le taux de contamination dans notre pays, et d'ailleurs sur la planète, il est probable que nous ayons tous acquis une forme d'immunité, ou par la vaccination, ou par l'infection, ou les deux. Je ne dis pas qu'il est moins dangereux, attention, je dis qu'il provoque moins de réa. Mais si vous avez un très grand nombre de malades, avec proportionnellement un certain nombre d'hospitalisations, l'afflux, encore une fois, de patients dans nos hôpitaux, dans une période critique qui est le mois de janvier, la grippe a commencé, Léa Salamé. Les gastro-entérites sont là. Les autres pathologies, les autres personnes qui ont des maladies chroniques ont besoin d'être soignées. Sur 400 000 lits de médecine que comptent nos hôpitaux aujourd'hui, 20 000 sont déjà occupés par des patients Covid avant même avant même l'impact de la vague Omicron. On va passer un mois de janvier difficile à l'hôpital. Je le dis, les soignants qui sont à pied d'œuvre et qui l'étaient encore, qui n'ont pas pris de vacances, le savent. Je leur tire encore une fois mon chapeau pour leur courage et leur abnégation dans la durée.
Cette cinquième vague sera peut-être la dernière, avez-vous dit hier dans le journal du dimanche. Vous l'avez beaucoup annoncé, vous, Olivier Véran, Jean Castex, Emmanuel Macron, ces derniers temps, après la deuxième, après la troisième vague, vous avez annoncé le retour des jours heureux, le bout du tunnel, la fin de l'épidémie. À chaque fois, le variant mutait et revenait. N'êtes-vous pas un peu optimiste, voire téméraire?
J'aimerais bien qu'on me taxe d'optimisme. C'est pas la critique que j'entends le plus s'agissant de ce que je peux dire depuis deux ans. Non, en réalité, à l'issue de la première vague, il y avait 4 à 5% de la population qui avait atteint une forme d'immunité, nous n'avions pas de vaccin. Donc il n'était pas certain que le virus mute, il s'est avéré qu'il mutait. Aujourd'hui, on va avoir, à l'issue de la vague Omicron, une immunité qui sera largement supérieure aux 50%, même avec la vaccination quasiment du 100% en réalité. C'est pour ça que j'ai dit, les non-vaccinés ne passeront pas entre les gouttes, c'est pas une menace, c'est pour leur dire, le variant circule tellement, de toute façon que vous allez l'attraper. Donc avec un peu de chance, vous allez faire une forme symptomatique pas trop sévère, mais il n'est pas incohérent de penser que ce variant-là puisse, même si vous êtes jeune, vous envoyer à l'hôpital quelques jours.
C'est peut-être ce qu'on a envie d'éviter. C'est peut-être la dernière vague, dites-vous, mais est-ce qu'il va falloir qu'on s'habitue à faire un rappel deux fois par an, tous les 4 mois ou tous les 6 mois, tous les ans?
Nous verrons. Encore une fois, Léa Samé, je n'ai pas la réponse à cette question. La question va se poser assez vite pour les personnes fragiles dans notre pays.
Donc on va ouvrir la quatrième...
Les personnes très âgées qui sont à 3 ou 4 mois de leur rappel. Ce qu'on voit, c'est que l'immunité qui est très forte, c'est-à-dire la protection très forte qui est acquise après le rappel, elle commence à baisser à son tour au bout de quelques semaines. Et donc, il faut pouvoir protéger. Moi, je reçois beaucoup de demandes de personnes fragiles qui disent « Moi, je voudrais bien faire ma quatrième. »
Et alors, vous l'ouvrez
quand? J'aimerais bien passer cette vague sans trop de dégâts.
Et vous l'ouvrez quand, la quatrième?
On en discute avec les scientifiques. Pour l'instant, il y a qu'Israël qui l'a ouvert et timidement aux personnes fragiles. Quand on aura leurs données, j'imagine qu'on bougera. Mais je peux pas encore vous le dire avec assurance. Ensuite, Léa Salamé, si on a un vaccin qui est sûr, qui est efficace et qui devait nous protéger dans la durée de vagues mortelles, paralysantes pour notre pays, comme celles que nous avons connues, nous prendrions, hélas, pour celles et ceux, et je l'entends bien, qui n'aiment pas se faire vacciner, cette habitude d'avoir des rappels de temps en temps. Je rappelle que la grippe, c'est 12 millions là, de Français qui sont vaccinés, comme tous les ans, contre la grippe. On s'est habitué à ce que les personnes fragiles se vaccinent.
Oui.
Peut-être que nous aurons à vacciner les personnes fragiles contre le Covid.
C'est vrai que sur la troisième dose, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas immunodéprimés, qui sont en forme et qui hésitent à se faire la troisième dose parce qu'ils ont peur des effets secondaires, ils ont peur d'être cloués au lit 3 jours avec de la fièvre ou pour beaucoup de femmes d'avoir leur cycle menstruel perturbé, ce qui a été le cas après la première ou la deuxième dose, Olivier Véran.
Vous savez, il y a un certain nombre de femmes en réanimation, notamment enceintes, Léa Salamé. Donc faisons très attention à ça parce que je vous assure, c'est ce qui est le plus dur humainement. Et notamment pour les équipes et pour les personnes concernées. Donc je redis que le vaccin est sûr et efficace, qu'il faut le faire, même si on craint des effets indésirables, même si on craint, etc. Donc une fois, c'est pas la règle. La règle, c'est que ça, en tout cas, ça nous protège et que ça nous évite les risques d'aller à l'hôpital.
Vous avez donc annoncé un assouplissement des règles d'isolement hier. Une personne positive et vaccinée ne devra s'isoler que 5 jours et ensuite faire un test PCR. S'il est négatif, elle peut retourner travailler. Les cas contacts vaccinés n'auront plus à s'isoler du tout. Comment comprendre qu'on allège ces règles d'isolement à un moment où le virus circule énormément? N'est-ce pas contradictoire?
Non, il n'est jamais contradictoire de préserver la santé de notre société et la santé des Français. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si vous n'avez plus de société qui fonctionne, vous n'avez plus de santé publique.
Donc c'est pour des raisons économiques que vous le faites?
Non, mais je viens de vous expliquer. D'abord, il y a les raisons sanitaires. Imaginez que vous ayez, comme dans certains pays, 30% des soignants qui ne puissent plus travailler. Qu'est-ce que vous dites aux malades qui ne peuvent plus être soignés? L'impact sanitaire est beaucoup plus fort. Deuxièmement, dans la mesure où Omicron est moins dangereux pour celles et ceux qui l'attrapent, vu le niveau d'immunité qu'on a aujourd'hui, et vu sa vitesse de propagation avec ou sans contact tracing d'ailleurs, eh bien nous sommes en mesure de simplifier ces règles. C'est pas du tout un relâchement, encore une fois, c'est une adaptation à cette menace nouvelle en tenant compte des apports de la science.
Vous assouplissez les règles d'isolement et en même temps vous imposez à nouveau le masque à l'extérieur, ce que beaucoup de médecins disent que ça sert à rien. D'un côté l'assouplissement, de l'autre peut-être un excès de zèle. Vous comprenez que là aussi il y a une incohérence sur le masque à l'extérieur?
Il y a une chose, je ne sais pas si je le comprends, mais que je constate, c'est que depuis 2 ans, chaque fois que nous prenons une mesure ou que nous ne la prenons pas, vous avez d'une part des scientifiques qui vous disent qu'il n'aurait pas fallu le faire, et d'autre part des scientifiques qui nous disent qu'il aurait fallu le faire. Je note que parce que nous demandons le port du masque pour les enfants âgés de 6 ans et plus, on nous taxe presque d'un certain côté d'inhumanité, quand de l'autre côté, on nous reproche de ne pas fermer les écoles, comme si l'éducation était moins importante pour les enfants que le fait de ne pas porter un masque dans des conditions particulières de circulation du virus.
Les écoles, nouveau protocole donc annoncé hier à 16h par Jean-Michel Blanquer. Beaucoup de directeurs d'école trouvent que c'était un peu tard pour s'organiser. Mais bon, donc, si un enfant est malade, il faut que les autres enfants passent 3 tests, c'est bien ça si j'ai bien compris. Un premier test PCR, ils reviennent à l'école s'il est négatif. Ensuite, 2 jours après, un nouveau test. Et 4 jours après, est-ce qu'on a une pénurie de stock d'autotests L'opposition, vous la reprochez ces derniers jours. Est-ce qu'il y a suffisamment d'autotests en France?
Il y a des autotests. D'abord, nous avons passé les fêtes encore une fois, cette année encore, grâce à la mobilisation des laboratoires, des pharmaciens, qui ont pu faire plus de 8 millions de tests en une semaine. C'est plus d'un million de tests par jour. Enfin, il n'y a aucun pays quasiment qui teste autant que nous. Et c'est tant mieux, les Français ont pris l'habitude de se tester quand ils savent qu'ils vont se retrouver. Et ça réduit les risques. C'est ces comportements qui sont vertueux. Nous avons assez d'autotests. Ils seront, je le répète, gratuits pour les personnes qui sont amenées à faire des autotests parce qu'ils sont qu'à contact.
Donc, pas de pénurie d'autotests. Y a-t-il une pénurie en France de masques FFP2?
Non, il n'y a pas de pénurie de masques FFP2 dans la mesure où les masques FFP2 permettent de répondre aux indications actuelles de port.
Dernière question sur les jauges. Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon n'appliqueront pas de jauge dans leur meeting. On ne va pas se faire voler l'élection, disait tout à l'heure à 6h20 Sébastien Chenu pour le Rassemblement National. Dites-vous comme Éric Dupond-Moretti qu'ils sont totalement irresponsables?
Je me demande comment on peut prétendre être responsable une fois au pouvoir quand on n'est pas capable d'être responsable alors qu'on prétend avoir le pouvoir. Je ne comprends pas leur stratégie, mais depuis longtemps, hein, ils sont sur une forme de déni et en même temps sur une forme de récupération d'une toute petite partie de l'électorat français qui se bat contre le masque, qui se bat contre le vaccin, qui se bat contre le pass. Vous verrez au Parlement tout à l'heure, vous aurez les extrêmes de l'extrême gauche et de l'extrême droite qui vont marteler comme un seul homme que le pass vaccinal est pire que le virus. C'est un non-sens et les Français dans leur immense majorité le savent. C'est leur stratégie électorale, elle leur appartient, ce n'est pas la mienne.
Olivier Véran était notre invité, merci d'avoir été le premier invité. Merci. Du 7h50 de 2022.